France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le plus grand parking à vélo de France est ouvert, ça se passe à Lyon. 1500 places, chantier XXL qu'on vous présente dans un instant, tout cela pour pousser encore la pratique du deux roues dans notre pays. À suivre encore les images et témoignages insoutenables en provenance de Gaza, privés d'aide humanitaire. Les Gazaouis comme Youssef ont faim.
Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, je trouve pas de pain. Je peux même pas acheter 1 kilo de tomates, ça coûte à peu près 10 euros. Le citron, ça coûte à peu près 40 euros. En plus, les banques sont fermées.
Témoignage en longueur dans quelques minutes. Nous nous arrêterons aussi sur ce nouveau succès diplomatique pour le président syrien qui, après Emmanuel Macron, a serré la main ce matin de Donald Trump. Un an après l'attaque du péage d'Incarville, le président de la République rencontre les familles des 2 surveillants tués. Nous sommes sur place. Nous écouterons le témoignage de l'homme qui, hier à Paris, a fait fuir des ravisseurs avec un extincteur. Et puis nous vous présenterons le duo de députés. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Qui vont cet après-midi auditionner François Bayrou à l'Assemblée nationale.
Oui, un duo de choc improbable, une macroniste qui a porté la dernière estocade politique à Adrien Quatennens et un fidèle lieutenant de Jean-Luc Mélenchon.
C'est la commission d'enquête parlementaire sur les violences commises dans les établissements scolaires. À partir de 13h30, nous parlons des accidents du travail en France. 2 mortels en moyenne chaque jour. 3 maçons sont morts hier sur un chantier en Côte d'Or. 01 45 24 7000 pour être avec nous et témoigner. 13h50, c'est la France. Pourquoi Jacques Chirac, 30 ans après son élection, est-il aussi populaire? Patrice Trappier, du 1 Hebdo, avec nous. Juste avant 14h, c'est une chanson, le jazzman Romain Pilon, Deep Purple et Frédéric Pommier. Et puis dans une vingtaine de minutes, les sorties cinéma du jour. Nous serons en direct de Cannes avec Alexis Demeyer. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Ce ne sont pas les 12 000 places du plus grand parking à vélo au monde, d'Utrecht aux Pays-Bas, mais on s'en approche. La plus grande station vélo de France a été inaugurée ce matin à Lyon, 1500 places. L'enjeu, c'est de développer la pratique qui a tendance à stagner dans notre pays. Aujourd'hui, 1/4 des Français sont des cyclistes réguliers. À Lyon, ils peuvent donc désormais stationner 24 heures sur 24 près de la gare Pardieu. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
L'inauguration a donc eu lieu ce matin.
Oui, et le point d'entrée, c'est une rampe métallique depuis le parvis de la gare pour débarquer quelques tours de roue plus bas dans un immense 524 places exactement sur 2400 mètres carrés et de niveau, le tout surveillé, clairement un bon point pour Roman, un cycliste du quotidien.
Il y a un moment, je faisais aller-retour entre Paris et Lyon, je laissais là plusieurs jours et je me suis fait piquer plusieurs fois des pièces, jamais le vélo parce que je l'attache bien, mais bon, c'est un peu désagréable. Donc ouais, pouvoir le garer à l'intérieur et surveiller, c'est pas mal. Je pense que ça va être rapidement plein, parce que c'est très pratique de venir à vélo à la gare.
Une fois son vélo posé, accès en quelques pas au quartier d'affaires de la Pardieu, le 2e de France, et surtout au train. C'est de l'intermodal dans une métropole où la pratique du vélo ne fait que progresser. Fabien Bagnon est le vice-président en charge des mobilités actives.
Ce qu'il faut resituer, c'est qu'entre 2019 et 2024, on est à plus de 60% d'augmentation du trafic vélo. Donc c'est une mobilité de masse. Effectivement, on a cette fierté d'inaugurer la plus grande station vélo-station de France. Il faut savoir aussi qu'en France, il y a d'autres projets. Donc il y a une saine émulation au niveau national et c'est vraiment une modalité d'accès aux gares qui est appelée à se développer. On sait qu'aux Pays-Bas, on a 50% des usagers des trains qui viennent actuellement à vélo.
C'est la métropole qui finance à hauteur de 12 millions d'euros, dont 2 donnés par l'État. Un jalon de plus dans le bilan écologiste lorsqu'il s'agira d'aller voter d'ici un an.
Mathilde Imberti, correspondante d'Inter à Lyon. Lyon où le stationnement des voitures va devenir payant en ville au mois d'août. La décision sera présentée en conseil municipal demain soir. Lyon qui réfléchit, comme d'autres villes de France, à rendre ses fleuves baignables, en l'occurrence le Rhône et la Saône, d'ici 2027. Eh bien, ce sera le cas en Île-de-France dès cet été pour la Seine et pour la Marne. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Vous revenez des bords de Seine où ont été détaillées ce matin les dates et les conditions d'accès à la baignade.
Oui, d'ailleurs, c'est la Marne qui ouvrira le bal le 28 juin à Maison-Alfort et Joinville-le-Pont. On est côté Est. Pour Paris intramuros, ce sera une semaine plus tard, le 5 juillet. Trois sites prévus dans la capitale. Bercy à l'Est, le Bras-Marie près de Notre-Dame et puis à l'Ouest, le bras de Grenelle. Alors à quoi cela ressemblera? Eh bien, les infrastructures seront les plus légères possibles. Bien sûr, il y aura des vestiaires, des sanitaires, des douches, mais dans l'eau, simplement des bouées, des lignes d'eau pour avoir une vraie sensation de nager en eau libre. Il y a quand même une exception, c'est Bercy, où il y aura un vrai bassin en dur, car sur les horaires d'ouverture, la circulation fluviale sera maintenue, donc le risque était trop grand d'un bateau qui dérive. Alors la question, ce sera évidemment la qualité de l'eau, notamment en fonction de la pluie et des orages. On se souvient des épreuves olympiques décalées l'été dernier. Eh bien, les contrôles seront doubles, promet Marc Guillaume, le préfet d'Île-de-France.
Chaque collectivité va faire des mesures tous les jours et d'autre part, l'ARS en fera trois fois par semaine. Et il est évidemment hors de question qu'un site soit ouvert. Si la qualité de l'eau n'est pas au rendez-vous, ils seront fermés. Et même en cas de pluie et de certitude que le lendemain, l'eau ne sera pas au rendez-vous, on annoncera qu'elle est fermée pour deux jours.
Et pour que tous les baigneurs en soient informés, il y aura comme à la plage, Jérôme, des drapeaux, rouge quand c'est interdit, jaune quand c'est autorisé mais avec vigilance et vert quand tout va bien. Si c'est bien le cas le 5 juillet, Anne Hidalgo a promis qu'elle se baignerait de nouveau, peut-être même accompagnée de la ministre des Sports, Marie Barsac.
Merci Emma Sarango. Toujours en lien avec l'héritage des Jeux, les organisateurs du Tour de France confirment ce matin que la dernière étape du Tour 2025 passera bien par la butte Montmartre à Paris. Ce sujet du Tour a d'ailleurs été évoqué parmi beaucoup d'autres hier soir sur TF1 par Emmanuel Macron, le chef de l'État, suivi par près de 5 millions de téléspectateurs en moyenne et qui est de retour sur le terrain aujourd'hui. Journée consacrée à la lutte contre le trafic de drogue, un an jour pour jour après l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra et la mort de deux agents pénitentiaires. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
Vous êtes Jérôme en direct du centre pénitentiaire de Caen où travaillaient ces deux surveillants. Le président doit rencontrer leur famille dans les prochaines minutes.
Oui, un moment solennel pour Emmanuel Macron dans la cour de ce centre pénitentiaire. Le chef de l'État qui vient d'arriver à l'instant, escorté par une haie des personnels, certains cagoulés pour ne pas être identifiés, symbole de ce traumatisme vécu par les surveillants ici. Il est allé saluer les familles des deux agents tués avant un long moment de recueillement tout à l'heure. Marseillaise également entonnée. Le président, en effet, ira s'entretenir à l'écart des caméras et des micros avec les proches des deux victimes. Ici, mais également à Nanterre, ce matin dans le Nord, un peu plus tard dans l'après-midi, Emmanuel Macron parle de lutte contre le narcotrafic de prison, des thèmes abordés déjà hier soir à la télévision. Façon aussi de répéter, la sécurité, c'est aussi et surtout moi avec à son côté le garde des Sceaux Gérald Darmanin, une façon aussi pour lui de remettre le pied à l'étrier sur le sol national, lui qui a enfilé le brassard de capitaine de l'Europe ces dernières semaines avec de multiples déplacements. Son entourage précise quand même que le chef de l'État n'a jamais rompu le lien avec les Français, avec des visites en catimini depuis le début de l'année dans des petits commerces, boucheries, bistrots, la plupart du temps dans des territoires ruraux, et il continuera la semaine prochaine avec à son agenda plusieurs rendez-vous en région parisienne à l'occasion du sommet Choose France.
Jérôme Val, avec les moyens techniques de Marc Garvenès, après quand Emmanuel Macron est attendu à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais? Elle accueillera à partir de cet été les 100 narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Les travaux sont en cours. Mais arrêtons-nous un instant sur l'enquête qui a suivi l'attaque du péage d'Incarville il y a un an pour retrouver les complices de Mohamed Amra, arrêté lui en Roumanie en février. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Moyen exceptionnel pour démanteler un réseau tentaculaire. 38 personnes sont à ce jour mises en examen.
Oui, ce qui fait un appui logistique impressionnant, digne des plus grands mafieux en cavale. Une nébuleuse répartie en deux lieux principalement, Rouen où Mohamed Amra a grandi et Évreux, quartier de la Madeleine, là où le jeune délinquant devient un trafiquant de drogue d'envergure grâce à une mafia longtemps passée sous les radars que l'on connaît désormais sous le nom de BMF, la Black Manjak Family, avec des jeunes gens dont les familles sont originaires de Guinée-Bissau. Depuis le vaste coup de filet du week-end du 20 février dernier, c'est une autre partie partie qui a commencé pour les enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé, avec les analyses des téléphones saisis, celles des procès-verbaux des gardes à vue, en particulier ceux des membres présumés du commando d'Incarville.
Plusieurs tireurs donc, mais est-ce qu'on sait qui a tué ce jour-là ?
Alors il y a eu au départ des soupçons sur l'homme qui s'était caché dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, avec une forte corpulence, surnommée le prof, que les enquêteurs et des témoins pensaient avoir identifié sur les images de la vidéosurveillance du péage d'Incarville. Mais ce n'est pas concluant, pas suffisant, nous confiait récemment une source proche de l'enquête. C'est actuellement en réalité la partie de l'enquête la plus sensible pour renvoyer ces 28 suspects devant une cour d'assises avec les preuves ou au moins les indices graves et concordants nécessaires.
Merci Emmanuel Leclerc. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui va prochainement recevoir les dirigeants du secteur des crypto-monnaies. Beaucoup vivent dans la peur après plusieurs enlèvements ou tentatives d'enlèvement contre eux ou leurs proches. Dernière en date, hier matin, en plein Paris, trois malfaiteurs cagoulés ont tenté d'enlever la fille et le petit-fils du PDG d'une société spécialisée dans les cryptos. Le mari de cette femme s'est interposé, il a été roué de coups et c'est alors un voisin prénommé Nabil qui a mis les agresseurs en fuite à l'aide d'un extincteur.
5-10 minutes après mon réveil, vers 8h30, j'ai entendu des cris dans la rue. Je me suis dit, il ne faut pas perdre de temps. J'ai claqué ma porte, je suis descendu en chaussettes. Au dernier moment, j'ai vu un extincteur. Je me suis dit, c'est peut-être le bon outil pour une urgence. Et donc, j'ai ouvert la porte, j'ai foncé comme une torpille. J'arrive avec mon extincteur, je me demande sur quoi je vais taper, ce que je vais bien en faire. Les gens montent dans le camion et au dernier moment, je jette cet extincteur. J'ai l'impression d'avoir fait un acte ordinaire et je suis sûr que d'autres voisins, s'ils avaient été présents, ils auraient fait la même chose pour le couple qui a été agressé comme pour moi. Et on se doit d'intervenir. En effet, il y avait des armes, c'était très impressionnant, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de héros comme moi. Je dis pas que j'en suis un, je dis que si j'en suis un, alors on est plein.
Témoignage recueilli par Faustine Calmel dans l'enquête sur l'enlèvement d'un opposant au régime algérien. En France, c'était en avril 2024. 5 personnes sont en garde à vue depuis hier, soupçonnées d'avoir fait partie du commando. La France qui, dans le bras de fer diplomatique avec Alger, annonce ce matin qu'elle va riposter et renvoyer des diplomates algériens. François Bayrou est-il intervenu pour protéger l'établissement scolaire Notre-Dame de Bétarame, établissement visé par plus de 200 plaintes pour des violences physique et sexuelle commise sur des élèves pendant des dizaines d'années. Le Premier ministre est accusé d'avoir menti, à tout le moins d'avoir changé de version dans un dossier très personnel pour lui, puisque ses enfants ont été scolarisés à Bétarame et que sa femme y a enseigné le catéchisme. Alors que savait-il ? Est-il intervenu dans les enquêtes ? Ces questions lui seront posées cet après-midi à l'Assemblée nationale par les députés de la commission d'enquête et notamment par les deux rapporteurs, un duo détonnant formé par l'élu Renaissance Violette Spielboot et par l'insoumis Paul Vanier. Laurence Perron, on vous retrouve, ces députés sont aujourd'hui très proches, mais ils viennent au départ d'univers plutôt éloignés.
Ah oui, et personne n'aurait parié sur leur entente. Paul Vanier, professeur agrégé d'histoire-géographie, moine soldat du combat politique à gauche, initié par son père syndicaliste au trotskisme. Il rejoint Jean-Luc Mélenchon lors de la fondation du parti de gauche et est aujourd'hui l'un de ses très proches, chargé notamment des élections. Lors des dernières législatives, quand il investit Adrien Quatennens dans le Nord, c'est Violette Spielboot qui dresse le procès en indignité du candidat insoumis qui finira par se retirer. Dans le Nord, où elle brigue la mairie de Lille. Spielboot est dépeinte par la gauche comme l'archétype de la traître. Après avoir grandi dans l'ombre de Pierre Mauroy puis de Martine Aubry, qui en fera sa directrice de cabinet, la chaperonnera pour entrer comme dirigeante à la SNCF, eh bien elle rompt pour Emmanuel Macron et se présente contre la maire de Lille en 2020.
Et aujourd'hui, ces deux-là semblent s'entendre parfaitement.
Et oui, et l'entente semble sincère. Hein. C'est fréquemment le cas d'ailleurs lors de ces missions transpartisanes. Mais là, au vu de la sensibilité du sujet, on aurait pu s'attendre à une mise en scène de leur complicité un peu moins spectaculaire. Et celle-ci a été abondamment relayée par la presse. Il est vrai que parcourir la France durant des semaines à l'écoute de la souffrance des victimes nécessitait pour le moins un duo empathique. Un très proche de François Bayrou s'en émeut toutefois. LFI veut faire tomber le gouvernement et Spielboot soupçonne le ministre de la Justice Gérald Darmanin d'œuvrer contre elle. Pour la mairie de Lille, c'est de l'intérêt politique bien compris, selon lui.
Merci Laurence Perron pour ce portrait croisé.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Au moins 29 Palestiniens tués ce matin dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, nous dit la défense civile palestinienne. Le camp de réfugiés de Jabalia notamment a été touché. Ce que fait aujourd'hui le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou est inacceptable. C'est une honte, a dit hier soir Emmanuel Macron, un gouvernement israélien qui continue d'empêcher l'accès de l'aide humanitaire à l'enclave. Ce qui a déclenché la nuit dernière à l'ONU la colère du chef des opérations humanitaire, le Britannique Tom Fletcher. Écoutons-le, il s'adresse aux membres du Conseil de sécurité.
Chacun des 2,1 millions de Palestiniens de la bande de Gaza fait face au risque de famine. Une personne sur cinq risque de mourir de faim. Laissez-nous travailler. Nous avons un plan. Nous avons des fournitures vitales prêtes dès maintenant aux frontières. Nous pouvons sauver la vie de centaines de milliers de survivants. Nous disposons de mécanismes rigoureux pour garantir que notre aide parvient aux civils et non au Hamas. Mais Israël nous refuse l'accès et place l'objectif de dépeupler Gaza avant la vie des civils. La modalité de distribution de la nourriture pensée par Israël n'est pas une solution. Elle exclut de nombreuses personnes, elle subordonne l'aide à des objectifs politiques et militaires et transforme la famine en une monnaie d'échange.
Tom Fletcher, le chef des opérations humanitaires de l'ONU à Gaza. Alors, illustration de ses propos sur le terrain. Avec le témoignage de Youssef. Youssef habite Deir el-Bala, au centre de l'enclave. Notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre, a pu échanger avec lui.
Youssef a subi cette guerre entre Israël et le Hamas.
Cette fois-ci, c'est pas comme les autres, là. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Je trouve pas de pain. Tu peux imaginer ? Ça fait 1 semaine, j'ai pas d'eau. C'est horrible.
Depuis que l'État hébreu a coupé il y a 2 mois la dernière ligne électrique reliant son territoire à Gaza, l'usine de désalinisation ne fonctionne plus et l'eau courante est donc salée. Le blocus humanitaire dure depuis plus de 70 jours et les prix des dernières denrées disponibles sur les marchés explosent.
Tu peux même pas acheter 1 kilo de tomates, ça coûte 35 shekels, à peu près 10 euros. Le citron, ça coûte à peu près 40 shekels, 40 euros. Ça, c'est un grand problème pour acheter. En plus, les banques sont fermées. Par exemple, tu me transmets, tu m'envoies de l'argent. Tu dois les retirer par des gens qui ont de liquide. Ils prennent 30%. Avant, c'était 1%, 2%. Il y a de la mafia qui gère ça. C'est l'enfer, quoi.
Il reste les soupes populaires, les tikkias, mais les files d'attente sont interminables et la majorité des Palestiniens de Gaza repartent sans manger.
Thibault Lefebvre à Jérusalem pour Inter. C'est l'une des images de la matinée. Deux hommes qu'a priori tout sépare, réunis dans un même bureau, le président américain Donald Trump et le nouveau président syrien, l'ex-djihadiste Ahmad al-Shara. Poignée de main très symbolique, alors qu'hier Donald Trump a surpris son monde en annonçant la levée des sanctions contre la Syrie. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante dans la région. Marie-Pierre, l'entrevue entre les deux hommes a eu lieu ce matin à Riyad, en Arabie Saoudite.
Oui, en présence du prince héritier Ben Salman, le président turc Erdogan était lui en ligne, au téléphone. Ce sont les deux soutiens les plus actifs des nouvelles autorités de Damas. L'entrevue, prévue pour ne durer que quelques minutes, s'est prolongée près d'une demi-heure. Une consécration pour l'ancien djihadiste qui dirige désormais la Syrie. Et à rebours, un camouflet pour le premier ministre israélien, lui qui dénonce les terroristes de Damas. Trump y a vu un coup diplomatique, mais pragmatique. Il sait aussi que la reconstruction de la Syrie, c'est un chantier qui se chiffre en centaines de milliards de dollars. Et il espère bien que les sociétés américaines en profiteront, notamment dans le gaz et le pétrole. Des bannières avaient récemment fleuri en Syrie « Make Syria Great Again ». Désormais, avec l'annonce de la levée des sanctions, Trump est présenté comme l'ami du peuple syrien. Il a formulé quelques demandes, normaliser les relations avec Israël, chasser les terroristes étrangers et les extrémistes palestiniens, prendre le contrôle des prisons de djihadistes dans le Nord-Est, aider à la lutte contre l'État islamique. La plupart sont déjà en partie mises en œuvre.
Marie-Pierre Véraud en direct d'Istanbul. Donald Trump qui est arrivé il y a quelques minutes au Qatar, deuxième étape de sa tournée dans le Golfe, et qui évoque maintenant la possibilité de se rendre demain en Turquie si Vladimir Poutine s'y rend aussi. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a fait savoir qu'il se rendrait en Turquie demain et qu'il y attendrait le président russe pour ouvrir des négociations directes. C'est parfois plusieurs fois par jour ces appels téléphoniques que vous recevez pour vous vendre des panneaux solaires à 1 euro ou tout autre travaux avec des aides de l'État à la clé. Eh bien, c'est bientôt terminé. Une proposition de loi est étudiée cet après-midi à l'Assemblée contre la fraude aux aides publiques. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Texte qui prévoit l'interdiction de tous les démarchages téléphoniques pour les aides de l'État d'ici août 2026.
Oui, et ce texte va même plus loin après un passage en commission mixte paritaire. Si ça ne concerne pas les aides de l'État, cela reste autorisé, mais il faudra désormais le consentement du client. Ça veut dire que les entreprises devront avoir l'autorisation de la personne qu'ils veulent appeler avant de décrocher le téléphone. Un changement inédit. Alors certains secteurs comme la vente de produits alimentaires à domicile avaient réussi à obtenir une exception, finalement supprimée au dernier moment. Toutes les entreprises doivent s'y plier. Le seul cadre encore autorisé dans cette proposition de loi, c'est si vous êtes déjà un client de l'entreprise et qu'on vous propose une offre en lien avec votre contrat actuel. Et si ce n'est pas respecté, la sanction encourue est lourde, 1,5 million d'euros d'amende et 5 ans de prison.
Autre objectif de ce texte, lutter contre les fraudes aux aides publiques environnementales. Dans le viseur, certains professionnels du bâtiment.
Exactement, il y a notamment la mise en place d'une limite de 2 sous-traitants maximum par chantier de rénovation, pour empêcher une multiplication des entreprises sans que l'on puisse savoir facilement qui est responsable en cas de malfaçon sur l'ouvrage, mais aussi pour éviter de voir s'évaporer dans la nature l'argent des aides avec une entreprise douteuse. Et l'enjeu est énorme, c'est une fourchette, mais on estime que le montant total de la fraude pour ces aides publiques se situe entre 700 millions à plus d'1,5 milliard d'euros. Autre nouveauté dans ce texte, la création d'un crime, l'escroquerie aux finances publiques en bande organisée, avec une peine qui peut aller jusqu'à 15 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Ça vous donne déjà une idée du renforcement des sanctions prévues dans cette proposition de loi.
Mathieu Bonnour, qui veut sauver le coq sportif? Le célèbre équipementier est en redressement judiciaire depuis 6 mois. Et on apprend ce matin que 2 repreneurs sont sur les rangs, notamment un consortium dans lequel on retrouve Xavier Niel, le patron de Free, mais aussi la famille fondatrice du coq sportif. Bonjour Cécile Bidot.
Bonjour.
Vous êtes en mesure de nous le confirmer?
Oui, c'est une société d'investissement française, celle de la famille Poitrinal, qui pilote ce projet de reprise déposé au tribunal de commerce. Un dossier à 60 millions d'euros, dans lequel on retrouve donc la famille Camuset, fondatrice du coq sportif, le directeur général actuel, d'autres cadres de l'entreprise, et donc Xavier Niel, à hauteur de 5%. Le grand patron français spécialiste des médias et des télécoms vient de racheter le club de foot de Créteil. Le coq sportif est dans la logique de ses investissements actuels, nous fait-on savoir, marque française et populaire. Ce projet, qui préserverait les 3/4 des 300 emplois, prévoit de maintenir la production à l'usine de Romilly-sur-Seine, près de Troyes. Franck Leroy est le président de la région Grand Est.
Vous voyez ces derniers temps, sur la Coupe du Monde de rugby ou sur les JO, cette marque iconique, encore une fois, sur le torse de nos athlètes ou de nos rugbyman, et pour autant, elle avait des difficultés à caractère industriel. Donc, je pense qu'il est important qu'on trouve un repreneur, un investisseur qui connaisse ce milieu si particulier du sport, du textile. À nous de faire en sorte qu'évidemment, ce repreneur soit le plus solide possible.
L'entreprise américaine Iconix s'engage à plus de 20% dans le financement de ce projet. Son rôle, développer le coq sportif à l'étranger. Une deuxième offre de reprise a été déposée. Selon le journal Les Échos, elle émane d'un homme d'affaires franco-suisse. Le tribunal de commerce de Paris doit trancher au cours de la première quinzaine de juin.
Information signée Cécile Bidot. Le cinéma.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Les sorties cinéma du jour, comme tous les mercredis, mais particularité, en direct de Cannes. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Avec le film qui fait l'actu aujourd'hui, à Cannes comme ailleurs, c'est Partir un jour.
Bah alors Béguin, tu t'es perdu?
C'est sûr qu'en bougeant jamais du bled où t'es né, toi tu risques pas de te perdre.
Ah.
Je suis là parce que mon père avait un infarctus.
Ah merde.
Il faut pas que je m'énerve. Et ça m'énerve.
Les voix de Bastien Bouillon, Juliette Armanet et François Rollin dans ce premier film très musical d'Amélie Bonin. La jeune réalisatrice adapte ici son court-métrage éponyme, lauréat d'un César il y a 2 ans. Elle conserve bien sûr le même concept. Au beau milieu des dialogues, les personnages se mettent à chanter leurs émotions en reprenant des tubes des années 90 et 2000 de Céline Dion à Camaro, des To Be Free à Stromae. Un mot de l'intrigue tout de même, mm-hmm. Cécile est une prometteuse chef qui doit subitement quitté son resto gastro parisien pour se rendre au chevet de son père dans le Loir-et-Cher. Ce retour au bercail provoque un choc des cultures entre cette transfuge de classe et ses amis d'enfance au quotidien bien moins paillettes. Totalement assumé, le côté soirée karaoké de partir un jour fonctionne bien et sa portée générationnelle séduira sans peine les quadras et les quinquas. On aurait tout de même apprécié un scénario un peu moins prétexte et aussi un peu plus de cinéma dans la mise en scène de la néanmoins prometteuse Amélie Bonin.
Un film espagnol tiré d'une histoire vraie maintenant. Il a attiré votre attention, Alexis. Il s'appelle Marco, l'énigme d'une vie.
Oui, c'est la trajectoire d'un imposteur que retrace ce long métrage signé Yon Garagno. L'anti-héros de cette histoire s'appelle Enric Marco. Au début des années 2000, ce syndicaliste catalan devient président de l'association des victimes espagnoles de l'Holocauste avant d'être démasqué par un historien.
Hemos mandado tu fotocopia de registro al campo de Flossenburg.
Sí, les hemos preguntado si tal y como indica esa fotocopia, el número de presos 6448 corresponde a Enric.
Malgré sa réalisation trop classique, Marco, l'énigme d'une vie est un film qui nous tient en haleine. Ici, sur la Croisette, il aura droit demain à une projection spéciale pour les collégiens dans le cadre du dispositif Cannes Cinéma.
Et puis un siècle après sa sortie en salle, le grand film de Chaplin, La ruée vers l'or, a été projeté hier à Cannes dans une version restaurée.
Oui, ce chef-d'œuvre du muet a émerveillé les festivaliers. Charlot, chercheur d'or, est en effet une mine de gags et de moments poignants que la mythique scène du festin de chaussures synthétise parfaitement. Alors, cette restauration en 4K est pour le moment disponible en DVD, mais pour la voir sur grand écran, ce sera possible à partir du 26 juin, Jérôme.
Profitons un peu de cette musique, cher Alexis, avant un dernier mot pour terminer sur les autres sorties de la semaine.
Destination finale, Bloodline, sixième volet de la franchise horrifique entamée il y a maintenant 25 ans. Le Domaine, un thriller français inspiré d'un fait divers des années 80. Et Milli Vanilli, de la gloire au cauchemar, le biopic du duo allemand, symbole des années dance que nous avons bien connu, Jérôme.
Peut-être vous, moi je suis pas du tout dance, Alexis de
Allez, Hadaway, Pinocchio, Gala, c'est sympa.
En direct de Cannes pendant deux semaines, vous verrez Tom Cruise ce soir, vous le saluerez pour nous,
oui,
cher Alexis.
Oui, je vous confirme, je vais le croiser, ouais, ouais.
Il monte les marches à partir de 19h, Tom Cruise qui présente le huitième volet à Cannes de Mission Impossible. C'est hors compétition, nous étions dans la Seine pour la baignade au début de ce 13-14, on va y retourner pour vous présenter le nouveau navire de recherche océanographique du Musée National d'Histoire Naturelle. Il s'appelle la Korrigane. Alors en ce moment, il est au pied de la Tour Eiffel, mais son port d'attache, ce sera Saint-Malo. Particularité de ce bateau qui va sillonner les côtes bretonnes pour étudier la biodiversité, c'est un bateau bas carbone qui peut avancer au diesel ou aux batteries électriques. Visite guidée Sandy Dauphin.
La Korrigane, 15 mètres de long, détonne avec sa coque grise en aluminium recyclé, son portique de chalutier à l'arrière et ses 2 tonnes de batteries électriques embarquées.
Là, on a démarré le moteur électrique et vous voyez, c'est complètement silencieux.
Un bateau hybride, le capitaine Loïc Le Goff peut passer du diesel à l'électrique en un bouton.
On arrive à faire une journée de travail tout à l'électrique, ce qui fait faible coût carbone. Et le soir, on arrive à quai et on se branche et on recharge nos batteries. On voulait remplacer notre bateau de station qui est vieux par un bateau innovant et essayer de répondre aux enjeux écologiques du moment. C'est vraiment une révolution pour nous, anciens marins.
Ce nouveau navire de recherche océanographique ne partira pas en expédition à l'autre bout du monde. Il est conçu pour étudier les zones côtières. Jean-Luc Jung, professeur au Muséum, dirige la station marine de Dinard.
Notre attention se porte tout particulièrement donc sur cette biodiversité côtière, donc dans des espaces qui sont très très influencés par l'activité humaine. On a de quoi faire des pêches scientifiques et immédiatement après la pêche, après le prélèvement, on peut commencer à analyser le prélèvement sur le bateau. Et vous voyez là dans le labo, là on a déposé une loupe, donc on peut commencer à faire des tris d'organismes.
Et parmi ses prochaines missions, la Korrigane ira bientôt dans le parc d'éoliennes en mer de Saint-Brieuc pour étudier son impact sur les fonds marins.
Sandy Dauphin, et puis je voudrais vous partager la stupéfaction des policiers de la petite bourgade de Könitz. C'est tout près de Berne, en Suisse. Ils ont découvert qu'un objet volant avait dépassé la vitesse limitée pour les voitures, 30 km/h. Et quand ils ont développé les images, ils se sont aperçus qu'il s'agissait d'un canard. Un canard volant flashé à près de 52 km/h. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à 13h30, le nombre d'accidents du travail mortels en France est à son plus haut niveau depuis 20 ans. Hier, 3 maçons sont morts sur un chantier de Bourgogne. Nous en parlons avec nos invités. 01 45 24 7000 pour être avec nous. J'attends vos témoignages. 13h45, notre feuilleton dans les coulisses du travail d'un des derniers tireurs photo de France. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Patrice Trappier et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Patrice, vous avez regardé Emmanuel Macron hier soir.
Oui.
Et vous avez eu envie de nous parler de Jacques Chirac.
Exactement.
Et de son lien avec les Français.
Absolument, 30 ans après son élection. Que reste-t-il de sa présidence et pourquoi est-il toujours aussi populaire?
Et avec vous Frédéric, un guitariste.
Oui, nous irons à la rencontre de Romain Pilon Grand, guitariste de jazz. Il sera en concert à Paris cette semaine, vendredi et samedi, sur la scène du Sunset. Et avec lui... c'est un morceau de Deep Purple que nous écouterons, du gros rock, du rock dur, Smoke on the Water, le morceau qui a donné envie à Romain Pilon de se mettre à la guitare.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Allô les enfants, vous m'entendez? Je suis bien sur France Inter? Super. Je suis professeur Caillou, géologue au BRGM, le bureau de relaxation pour les girafes majestueuses. C'est le bureau de recherche géologique et minière. Et avec mon jeune collègue Abel, nous aidons des cailloux en détresse.
Les aventures du professeur Caillou.
C'est un pousque, un poumk, un podcast à écouter sur l'application Radio France, les petits silex.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Plus de soleil et moins d'averses.
Oui, l'instabilité devient plus réduite que ces derniers jours et l'après-midi est globalement bien ensoleillé, avec tout de même quelques bourgeonnements nuageux de l'Île-de-France aux plaines du Sud-Ouest et de la Bourgogne à la vallée du Rhône, ainsi que sur les côtes méditerranéennes. Le ciel est même bien dégagé de la Seine-Maritime au Hauts-de-France et au Grand Est, même si un voile nuageux va aborder les frontières nord en fin d'après-midi. Et puis de petites averses pourront quand même se former ponctuellement entre la Bourgogne, le centre-val de Loire et le Poitou-Charentes. En revanche, les nuages seront plus nombreux et plus épais sur les hauteurs. Le ciel sera même parfois menaçant et des averses localement orageuses sont à craindre cet après-midi, du Jura à l'arrière-pays provençal, sur les Pyrénées, le sud du Massif central et le relief de la Corse. La Bretagne, la Basse-Normandie et la Vendée seront aussi concernées par des averses et des orages, avec même parfois des risques de grêle. Et puis les maximales seront partout au-dessus des normales saisonnières. Le seuil de chaleur de 25 degrés sera régulièrement atteint. Mmh. On attend d'ailleurs jusqu'à 26 degrés à Paris, Nîmes, Reims et Amiens. 25 degrés pour Lille, Strasbourg et Toulouse. 24 degrés à Ajaccio et à Rouen. 23 degrés pour Marseille et 20 degrés à Brest et Aurillac.
Sébastien Léas, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
3 maçons sont morts hier sur un chantier à Pommard, en Bourgogne. Le mur de pierre qu'ils tentaient de consolider s'est effondré sur eux. Alors ce bilan humain est rarissime, mais les accidents du travail, eux au contraire, sont quotidiens. Près de 700 000 en 2022, 738 mortels. Cela fait 2 accidents du travail mortels par jour dans notre pays, qui est l'un des mauvais élèves de l'Europe en la matière. Pour quelles raisons? Que peut-on faire? Et notamment dans le bâtiment, secteur qui a été touché hier. Si vous travaillez dans ce secteur d'activité, si vous avez déjà connu ces situations, appelez-nous 01 45 24 7000. Vous êtes déjà plusieurs à l'avoir fait. Je vous présente nos deux invités. Paul Dufil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de l'OPP-BTP. C'est l'organisme paritaire qui est chargé de la prévention des risques dans le bâtiment et dans les travaux publics. Merci d'être avec nous. Yann Dagnon est en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Président des métiers du plâtre et de l'isolation, membre de la CAPEB, qui est le grand syndicat des bâtiments et travaux publics. Je voudrais qu'on accueille Jean-Pierre qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez du département de Dordogne. Vous travaillez dans le BTP.
Dans le BTP, exactement, oui.
Vous avez déjà été victime d'accidents dans le cadre de votre activité?
Oui.
Vous pouvez nous raconter?
Oui, plusieurs, oui.
Comment est-ce que ça s'est déroulé?
Pardon?
Comment est-ce que ça s'est déroulé, Jean-Pierre?
Eh ben disons que suite à un accident, j'ai eu des côtes cassées en tombant d'un tour, en fait, en tant qu'électricien, quoi. Et en fait, du coup, mon employeur, en fait, du coup, la déclaration n'a pas été faite comme il faut au niveau de l'assurance la carte, quoi, l'assurance maladie, quoi.
Uh-huh.
Et je n'ai pas eu de retour et on m'a dit mon dossier est clos, terminé. Voilà.
C'était un accident grave?
Bah oui, 4 côtes cassées quand même, c'est pas mal.
Vous avez toujours des conséquences aujourd'hui physiques? Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire suite à cet accident?
Oui, après, concernant, après j'en ai eu d'autres, mais j'ai perdu l'usage d'une main partielle, quoi. Des côtes cassées, puis voilà, c'est un empêchement global, quoi.
Vous travaillez toujours aujourd'hui, Jean-Pierre?
Ah, je travaille toujours, ouais.
Et cet accident, en quelle année?
En 2023.
En 2023. Est-ce que vous avez le sentiment, dans votre entreprise en tout cas, que la prévention est là, que les consignes passent?
Les consignes, elles passent, oui, on nous donne les consignes, elles passent, mais les consignes, elles ne sont pas respectées, parce que l'employeur, d'un côté, les consignes, c'est une charge pour eux, peut-être, mais nous, de notre côté, nous, on est obligés de subir aussi, c'est-à-dire que l'employeur nous pousse à aller au-delà des limites légales, quoi, en fait.
C'est-à-dire que des fois, vous faites des choses, vous dites c'est dangereux, mais si je le fais pas, je vais perdre du temps?
C'est que je perds du temps, et c'est que l'employeur, lui, il vous pousse derrière, quoi.
Merci Jean-Pierre pour votre témoignage que je soumets à Paul Dufil. La situation que nous décrit Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe en cas d'accident du travail?
Alors, en cas d'accident du travail, en fonction de la gravité de l'accident, d'abord, les choses se passent différemment. Hein. Bien sûr, dans le cadre d'un accident mortel, comme on a eu ce drame hier, hein, et je souhaite d'abord exprimer ma compassion pour les victimes, présenter mes condoléances à leurs proches, à leurs familles, à leurs collègues également, parce que c'est aussi un drame pour l'entreprise, hein, bien évidemment. En cas d'accident grave ou mortel, bien entendu, là, il y a une enquête qui est diligentée, en général une enquête judiciaire qui est confiée à l'inspection du travail. Dans le cas d'un accident plus bénin, l'employeur doit faire une déclaration d'accident.
Auprès de qui?
Auprès de l'assurance maladie, les caisses primaires d'assurance maladie. C'est une déclaration obligatoire, normalement dans les 24 heures, et qui vient donc détailler les circonstances de l'accident. Et ensuite, ce sont les services de l'assurance maladie qui vont, comme on dit, consolider les éléments de l'accident et à partir de là, effectivement, enclencher tous les mécanismes d'indemnisation qui peuvent être des indemnisations immédiates, voire des rentes en fonction des conséquences de l'accident.
En tant que salarié, comment est-ce qu'on peut s'assurer que son employeur a bien fait cette déclaration?
Alors, écoutez, moi, je ne travaille pas pour l'assurance maladie, et nous, on est d'abord en prévention des risques beaucoup plus qu'en traitement, je dirais, post-accident. Mais la meilleure chose à faire, c'est de demander, effectivement, à avoir la copie de la déclaration d'accident.
Alors, du coup, je ne sais pas si je peux vous poser cette question à vous, si c'est Yann Dagnon qui peut me répondre. 2023 pour Jean-Pierre, est-ce que c'est trop tard pour lui, pour faire cette déclaration?
Ça, je ne sais pas vous répondre.
Yann Dagnon?
Je n'ai pas non plus d'éléments de réponse.
Bon, on va essayer de se renseigner et donner une réponse à Jean-Pierre qui a été victime de cet accident il y a 2 ans. Yann Dagnon, sur le constat que fait Jean-Pierre dans son entreprise, lui qui est électricien, réaction à ce témoignage, lui, mais moi j'aimerais bien respecter toutes les normes, toutes les consignes, mais ça n'est pas possible.
Alors avant de répondre à votre question, effectivement, c'est de dire que c'est avec une tristesse que nous avons appris le drame Souvenir Pommard et que la CAPEP qui a exprimé sa compassion et tout son soutien aux familles des victimes, à leurs proches ainsi qu'aux entreprises concernées. En fait, par rapport au cas qui est décrit, à aucun moment on ne peut mettre en compétition la productivité et la sécurité. La sécurité reste essentielle pour pouvoir dans l'exécution de nos travaux et c'est un travail de tous. Effectivement, c'est un travail des collaborateurs et du chef d'entreprise. C'est des travaux qui la sécurité doit être anticipée. On n'arrive pas sur un chantier en découvrant qu'il va y avoir des risques. Donc c'est tout ça doit être fait en amont, anticipé, évalué. Et je le répète, à aucun moment la productivité ne doit prévaloir vis-à-vis de la sécurité.
On sait que le secteur du bâtiment est particulièrement touché, Yann Dagnon.
Vous rappelez les chiffres, effectivement. On est dans un environnement de travail qui n'est pas sans risque, que ce soit à l'extérieur ou alors dès l'instant où on travaille avec des étages. Mais il faut, tous les jours, repréciser les règles, se mettre en sécurité, communiquer auprès des entreprises. C'est ce que l'on fait avec nos CAPEP départementales.
Mais est-ce qu'il y a cette tentation parfois d'aller trop vite parce qu'il faut tenir les délais?
Alors, il peut y avoir cette tentation, mais là, on est dans une problématique qui est générale, c'est-à-dire que ça concerne l'entreprise, ça concerne les maîtres d'ouvrage qui peuvent effectivement mettre une pression qui est inutile. Donc, c'est le travail de tous de travailler dans un environnement apaisé.
Johan nous appelle du département de l'Ain. Bonjour Johan.
Oui, bonjour.
Vous êtes grutier?
J'étais grutier quelques mois, oui. J'ai arrêté.
Est-ce que c'est lié au risque?
Oui, bien sûr.
Vous pouvez nous expliquer?
En fait, on prend tellement de risques. Moi, j'étais débutant en plus. La rapidité, effectivement, comme vous le disiez, sur les chantiers est demandée. Les gens au sol connaissent mal aussi, des fois, des consignes simples, l'utilisation des sangles adaptées. La rapidité d'opération des grutiers doit être terrible pour la rentabilité du chantier, l'avancement. On voit des choses se passer. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas tuer quelqu'un, je ne veux pas blesser quelqu'un.
Qu'est-ce que vous avez vu concrètement, Johan?
Clairement, un jeune main d'œuvre qui a démonté un panneau qui ne devait pas être démonté, dévissé en fait, et moi j'ai attrapé l'ensemble des panneaux, et quand j'ai attrapé l'ensemble du panneau, il y a un petit élément qui s'est décroché et qui a failli blesser un collègue et qui est tombé sur les plans des collègues encore en dessous, quoi. Les plans qui étaient en lecture 5 minutes avant que je fasse cette opération, quoi. Donc ça aurait pu tuer deux personnes. C'est terrible sur les chantiers. On nous demande même des fois de faire des choses qui sont interdites.
Qu'est-ce qu'on vous a demandé, par exemple, Johan ?
De déplacer un panneau trop lourd avec l'aide de la grue et d'un autre camion, d'un camion à côté avec une petite grue. Ça, c'est totalement interdit. Parce que sinon, ça engendre des frais énormes.
C'est ce qui vous a poussé à changer de métier, si je comprends bien. Vous êtes toujours dans le BTP ou pas ?
Non, pas du tout.
Plus du tout. Non. Merci, Johan, pour ce témoignage. Paul Dufil, vous qui travaillez sur la prévention des risques, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous faites ?
Écoutez, ces exemples montrent bien finalement l'enjeu auquel on est confronté. Et je voudrais parler d'abord, je dirais, quelque part du devoir de vigilance et du besoin d'action collective sur l'ensemble de ces opérations. Parce qu'effectivement, bon, heureusement, on constate et on accompagne tout un nombre d'entreprises. Je dirais la volonté de bien faire est effectivement présente, où les moyens, l'organisation sont là. Ensuite, il faut réussir à chaque instant du chantier à mobiliser effectivement l'ensemble des intervenants pour agir en sécurité.
Mais est-ce qu'il y a des temps de formation qui sont prévus obligatoires au risque régulièrement tout au long d'une carrière, celle d'électricien ou celle de grutier ?
Alors, c'est variable en fonction des professions. Il y a des principes généraux de formation dans la loi. Les grandes entreprises les respectent de façon très stricte. Elles sont très organisées pour le faire.
Plus que les petites et les moyennes ?
C'est parfois plus aléatoire dans les petites entreprises, parce qu'il n'y a pas les mêmes moyens, donc la chose est claire. Mais je dirais que globalement, ce qui importe, c'est qu'on ait d'abord, des professionnels dans le métier, des gens qui sont effectivement formés, qui ont une formation professionnelle de qualité, et pour lesquels, et ça ce sont des avancées qu'il y a eu ces dernières années, parce qu'il faut bien faire comprendre à chacun que la prévention est un élément constitutif, vraiment fondateur du professionnalisme dans les métiers du BTP.
Patricia est avec nous en ligne depuis le Sud-Est. J'ai pas plus de précision. Oui. Patricia, bonjour. Vous pouvez nous dire dans quel département vous êtes ou pas ? Vous êtes inspectrice du travail ?
Oui, voilà, je suis inspectrice du travail, donc bonjour à tous. Alors effectivement, je voulais apporter ma contribution parce que effectivement le secteur du bâtiment est un des plus accidentogènes, on le sait. Ce qui se passe, c'est que depuis un certain nombre d'années, les effectifs, les agents qui sont en charge de la prévention, avant de la charge de la sanction, comme l'inspection du travail, mais il y avait aussi l'OPP-BTP qui passait beaucoup sur les chantiers il y a un certain nombre d'années.
Bon, c'est moins vrai.
C'est beaucoup moins vrai, oui. Les services de prévention de la CARSAT, etc. Et l'inspection du travail. Eh bien, écoutez, tout le monde le sait, il ne s'agit pas d'une défense corporatiste. Parce que s'il faut réduire des moyens parce que c'est rationnel, ok. Le problème, ce sont les conséquences. En termes, l'inspection du travail, maintenant, n'a plus... en gros, que les moyens d'agir, de réagir plutôt lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a une problématique dans une entreprise, et presque plus en termes de prévention, justement. Donc c'est catastrophique parce que...
Mais vous, concrètement, Patricia, dans votre bureau, il y a moins d'inspecteurs depuis quelques années ?
Bien sûr. Alors, il y a des ratios qui sont faits par les ministères, tant de salariés, on divise, alors que c'est comme ça que ça se passe.
Je vais reprendre la parole, Patricia, parce qu'on vous perd un peu, on perd un peu la liaison, et puis je voudrais donner la parole à nos invités. Yann Dagnon, réaction à ce que nous dit Patricia, et puis aussi peut-être la difficulté, il y a beaucoup de petites entreprises dans votre secteur, de faire passer les consignes à toutes ces entreprises.
Alors pour la baisse d'effectifs, j'ai pas forcément d'éléments. Par contre, pour effectivement par rapport aux problématiques que l'on a dans les petites entreprises, alors nous n'avons pas des services intégrés dans l'entreprise de prévention effectivement. La différence, par contre, c'est que nous sommes avec des effectifs réduits et très souvent nous sommes en prise directe avec nos collaborateurs, ce qui fait que la prévention, on peut l'appliquer au quotidien. C'est un sujet qui revient régulièrement en fait. Donc ensuite on a quand même tout un relais de communication que ce soit par le biais de l'OPBTP, les publications prêts à l'emploi qu'ils peuvent nous mettre à disposition, mais également avec l'IRIS-ST, enfin différentes structures qui nous donnent des éléments pour pouvoir faire de la prévention au quotidien dans nos entreprises. Donc il faut simplement une volonté, il faut installer une culture de la prévention dans toutes les entreprises.
Paul Dufil.
Oui, un mot pour dire d'abord que les moyens mis par la profession pour la prévention donc, des risques sont stables. Hein. L'OPBBTP existe depuis bientôt 80 ans. Nos moyens sont stables dans le temps. Hein. Donc,
vous avez toujours le même budget.
On a toujours le même budget en proportion de la masse salariale. Donc en fait, on a proportionnellement à l'activité, on a toujours les mêmes moyens. Donc quand l'activité monte, on a des moyens qui sont plus importants. Donc ça a augmenté donc, au fil du temps. Après, il faut pas se voiler la face. De fait, il y a 200 000 entreprises actives avec des salariés dans le BTP. Hein. 85% d'entre elles ont moins de 20 salariés. Donc c'est vrai que toucher tout le monde, réussir à animer, à porter le message partout est un élément difficile. Après, n'oublions pas les enjeux de culture que l'on peut avoir en France. Hein. Parfois, on fait des comparaisons avec des pays étrangers. On n'a pas la même culture de prévention, on n'a pas le même rapport à la règle en France que dans certains de nos voisins, et c'est aussi là-dessus qu'il faut agir.
Là, on est parmi les plus mauvais de l'Europe, donc il y a des pays qui ont des cultures plus ou moins différentes par rapport à la loi. Je voudrais qu'on garde les quelques instants qui nous restent pour accueillir Marc. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous nous appelez de Toulouse, je vous remercie de vous être garé et nous vous écoutons.
Oui, je voulais juste témoigner que j'étais directeur d'entreprise. On faisait très attention à la sécurité, c'est jamais parfait, mais on y faisait attention. On a eu un mort sur chantier, notre meilleur chef d'équipe, celui qui était le plus fiable, clairement. Il est décédé sur chantier, ce que je témoigne à froid aujourd'hui, après plusieurs années de difficultés hein, face à cet événement, c'est que, un, quelles que soient les contraintes, même si c'est jamais parfait, plus on s'occupe de la sécurité, ben, moins il y a d'accidents, de presque accidents et d'accidents. Ça, c'est réel, c'est mesuré. Et deux, surtout, c'est que quand ça arrive, parce que les accidents, ça arrive même quand on tient compte de la sécurité, ben, c'est plus facile de se dire qu'on a essayé de faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est-à-dire, on peut se reconstruire si on s'en est vraiment occupé sincèrement avant.
Si on a tout mis en œuvre pour que ça n'arrive pas.
Voilà. C'est jamais parfait. Il y a toujours des injonctions contradictoires. Il y a toujours des choses difficiles. J'entendais le coup de la grue tout à l'heure. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois sur ce genre? Peut-être on a pris un risque, mais la prochaine fois, on le prendra moins. Comment? Et à chaque fois, on se pose la question de comment on améliore. Parce que si ça arrive, un accident, après, on peut moins se le reprocher et on peut se reconstruire individuellement et collectivement aussi.
Merci Marc pour ce témoignage. Yann Dagnon, un dernier mot avec vous. Vous dirigez une entreprise du BTP dans le Morbihan. Est-ce que vous avez prévu de parler à vos salariés, par exemple, dans les prochaines heures après ce qui s'est passé hier?
Alors, en fait, j'en ai déjà parlé ce matin avec eux, avec mes chefs d'équipe, parce qu'on a eu un accident similaire avec un client il y a 3 ans. Donc c'est quelque chose qui nous a touchés.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pensez aussi pour ceux qui ont été victimes d'accidents du travail ces derniers jours, dont on a moins parlé dans l'actualité, mais c'est aussi pour eux qu'on voulait faire cette émission aujourd'hui. Merci à vous Yann Dagnon d'avoir été avec nous de la CAPEB, à Paul Dufil, secrétaire général de l'OPP-BTP, 13h46 sur Inter. Une semaine dans leur vie, dans la vie d'un tireur photo. Thomas Consani, l'un des derniers à donner vie à la main aux images en noir et blanc. Et nous le retrouvons aujourd'hui au musée Guimet à Paris pour une exposition dédiée au travail du grand photographe Marc Riboud, travail réalisé lors de la guerre du Vietnam. Et aux côtés de Thomas Consani, Lorraine Duret, la commissaire de l'expo.
On voit la ville de Hue qui a été détruite pendant l'offensive du Tet et la reprise de la ville par l'armée américaine au début de l'année 1968. Marc Riboud s'y rend pour un reportage, donc en mars 1968, après les combats, et il photographie les destructions, mais surtout la vie qui reprend.
On voit donc des bâtiments au dernier plan qui ont été détruits par des bombes. Et sa forme de la dentelle qu'on peut retrouver après au premier plan avec cette femme qui porte 2 paniers. Il y a plein de petits trous à travers l'espace du tissage du panier en bambou. Et on voit le chaos après ces bombardements. Et toujours ce qu'on voit dans les photos de Marc, c'est cette vie, c'est cet espoir, c'est cette joie, c'est le côté positif d'après l'événement difficile.
Lorraine Duret, qu'est-ce qu'on demande à un tireur quand on lui commande une exposition ?
On demande à ce qu'il interprète le négatif et la photographie tel que le photographe l'aurait souhaité. Dans le cas du travail de Marc Riboud, il émet des tirages équilibrés où on est à la fois les blancs, à la fois les noirs, mais toute la gamme de gris intermédiaire. Et là, je pensais justement en regardant ce tirage que pour le tireur, ça ne doit pas être évident car la lumière est très forte, très crue. Ça contribue aussi à la dramatique de la photographie et qu'il faut arriver à faire venir tous les détails dans les ombres sans qu'elles soient bouchées, mais aussi tous les détails dans les clairs et notamment dans les chapeaux.
Je me souviens les premiers tirages que j'ai fait avec Marc, et en l'occurrence la robe et les boîtes en carton, en bois qu'il y a au premier plan, j'avais tendance à les faire trop denses. Et Marc veut absolument du détail dans tout ce qui est sombre. Il ne veut pas ce qu'on appelle de noir bloqué. On met du détail dans les noirs et on met du détail dans les blancs.
Donc là on va au Nord Vietnam. Donc là c'est un tirage que Thomas a réalisé pour l'exposition, qui est très graphique, où on a cette perspective d'une ligne de production de bicyclettes.
C'est un tirage et une photo pour moi inédite. Je tire pour Marc depuis 1993 et je n'avais jamais vu cette photo. Donc c'est un petit challenge parce que je fais ce tirage-là sans l'aval, sans le regard vivant de Marc. Je dois interpréter une photo. Mais il n'est pas là pour me dire oui, ça va ou non, ça va pas. Et Lorraine connaît suffisamment le travail de Marc pour me dire mais est-ce que tu crois pas que là, le ciel est trop blanc ou le visage est trop noir ?
Je vais être faussement provocateur, Lorraine.
Ok.
Jusqu'à quand on va tirer à la main ?
Jusqu'à ce que les fabricants industriels produisent des papiers et des produits chimiques. Le choix s'est déjà beaucoup réduit, hein.
Si demain vous me présentez une photo de Marc Riboud, un négatif numérisé, un tirage numérique, on voit la différence ?
Surtout pour le noir et blanc, parce qu'en numérique noir et blanc, on a des problèmes de dominante de couleur. Donc on a vite des tirages qui sont très verts ou très magenta, et ce n'est pas très heureux. Et je recevais cette remarque il y a quelques jours dans une exposition que j'ai installée en Inde, où on a montré des tirages que Thomas a réalisés il y a plusieurs années sur l'indépendance du Bangladesh, où les gens étaient très étonnés de voir la profondeur qu'on peut percevoir en regardant ces tirages argentiques.
C'est rassurant ?
Ah ben, c'est plus que rassurant. Le savoir-faire, ça se transmet, donc il n'y a pas de raison.
Et vous retrouvez ces photographies à partir du 24 mai, Villa Tamaris. C'est à la Seyne-sur-Mer, tout près de Toulon. Notre feuilleton, signé Thibaut Cavaillès. Réalisation Stéphane Ronxin.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, 13h51. Le mercredi, nous sommes avec le 1 Hebdo et Patrice Trappier. Patrice, il y a 30 ans, le 17 mai 1995, Jacques Chirac entrait à l'Élysée.
Cet anniversaire, Jérôme, est passé plutôt inaperçu en dehors d'une couverture de Paris Match. Et c'est un peu curieux. Jacques Chirac occupe en effet une place tout à fait singulière dans notre imaginaire. Il a fait l'objet de nombreux films, pièces de théâtre. Ses réparties célèbres, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, ou les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, font l'objet d'un véritable culte sur Internet. Et un sondage de l'IFOP indique qu'il est considéré comme le meilleur président de la Ve République, à égalité avec le général de Gaulle.
Alors d'où lui vient cette popularité ?
Chirac a été longtemps moqué, affublé de tout un tas de sobriquets, Château Chirac, Facho Chirac. Il a incarné des lignes politiques changeantes, un coup Thatcher, un coup travailliste. En fait, c'est à partir de la cohabitation de 1997, débarrassé du fardeau du quotidien, qu'il a gagné les faveurs de ses compatriotes. Jospin parle à la France, Chirac parle aux Français, avait écrit après la Coupe du Monde 98 Claude Posternak, un bon connaisseur de la chose politique. Les circonstances lui ont permis de se replacer au centre, dans un radicalisme tempéré, un « en même temps avant la lettre » arrosé de moult bières, fromages, plats en sauce. Cette position centrale est d'ailleurs l'une des curiosités de la Ve République. 5 présidents sur 8 ont revendiqué leurs attaches dans le Massif central, ou ses contreforts, Pompidou, le Cantalien, Giscard l'Auvergnat, Mitterrand le Nivernais, Chirac et Hollande, les Corréziens.
Jacques Chirac a-t-il laissé un héritage au fond, Patrice ?
Sûrement pas par son action réformatrice. En 1995, il s'était fait élire sur la promesse de réduire la fracture sociale. Elle n'a cessé de s'élargir. Quelques mois plus tard, il a tenté avec Alain Juppé de réformer les régimes spéciaux des retraites. Là encore, échec quasi complet. Non, l'héritage de Chirac, c'est plutôt le souvenir d'un homme et d'un style. un désir constant de combattre la tendance française à la zizanie, mais aussi une série d'actions concrètes non négligeables, un plan de lutte contre le cancer, l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou la baisse spectaculaire du nombre des accidents de la route, et puis évidemment quelques gestes marquants comme le discours du Veldiv sur la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Et puis on n'oublie pas son opposition sur la scène internationale à la guerre en Irak, voulue par les Américains.
C'est son acte de rupture le plus important dans le sillage de la volonté gaulliste d'indépendance. Ce refus d'une guerre qui allait déstabiliser profondément le Moyen-Orient l'a rendu très populaire dans le monde arabe, mais il exprimait là une conviction profonde. Lui qui aimait se faire passer pour un crétin, il était en fait un grand connaisseur des civilisations anciennes et il avait compris les dangers qui guettaient l'Occident à vouloir bousculer les équilibres du monde. En somme, Chirac était un parfait français, c'est-à-dire une somme de contradictions. Parisien et provincial, laïque et catholique, aventurier et conservateur, animé d'un idéal républicain mais aussi d'un scepticisme tout paysan, il n'avait rien de commun avec les forts en thème comme Giscard ou Macron, et c'est sûrement cette proximité, une forme de simplicité qui explique sa popularité post-mortem, mais lui, s'il nous entendait, ce grand pudique pince sans rire, il nous sortirait sûrement l'un de ses proverbes corréziens préférés. Quand on est mort, on recueille toujours beaucoup d'hommages.
Merci Patrice Trappier. La une du 1 hebdo en ce mercredi. Où va la Syrie, disponible donc aujourd'hui de C'est la France. Ah, c'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est un guitariste de jazz. Il s'agit de Romain Pilon.
Il vient de faire paraître un nouvel album, Open Roads, qu'il jouera cette semaine au Sunset à Paris. Et ce n'est pas d'un titre de jazz que Romain Pilon m'a parlé, non. Il a choisi Smoke on the Water de Deep Purple, morceau qu'il a découvert à l'âge de 8 ans.
C'est vrai qu'à l'époque, je commençais à être intéressé par, on va dire, ce qui était du rock, mais un peu plus costaud, et ce que les copains appelaient le hard rock. Et un soir, je demande à mon père s'il avait, dans sa collection de vinyles, des groupes qui font du hard rock. Et il me sort cette pochette du disque Machine Head de Deep Purple. Et évidemment, je suis fasciné par la pochette, par le côté un peu psychédélique avec des garçons avec des cheveux longs, donc des rebelles. Donc moi, étant plutôt un gamin timide, tout de suite, je me dis « super !» avec cette photo qui est en fait la photo du groupe prise en reflet dans une plaque de métal et le titre « Machine Head » comme s'il avait été tamponné ou gravé sur cette plaque. Et voilà, j'ai tout de suite envie de voir ce qu'il y a dans ce disque, quoi.
Et une fois que vous mettez ce disque, qu'est-ce qui se passe ?
Mon père me dit « Écoute, Smoke on the Water, ça me paraît être le meilleur titre. » Et effectivement, c'est un choc, c'est-à-dire que je trouve ça génial. Dès les premières mesures, j'entends le son de guitare qui est saturé, la batterie, puis une deuxième guitare, et puis un énorme son de basse. Et il y a une puissance qui me parle tout de suite. Je suis scotché, quoi. J'adore.
À ce moment-là, vous jouiez déjà de la guitare ?
Non, alors à ce moment-là, moi, je faisais plutôt du air guitare, c'est-à-dire que j'avais une raquette de tennis et je faisais semblant de jouer de la guitare, donc je pense qu'il était temps de m'acheter une guitare, ce qui a été chose faite après, puisque mes parents, le Noël d'après, m'ont acheté ma première guitare.
C'est en 1972 qu'est sorti ce classique du rock britannique, Frédéric.
Et c'est l'un des premiers morceaux qu'a joué Romain Pilon quand il s'est mis à la guitare.
Moi, j'ai commencé par la guitare électrique. En fait, j'ai pas fait de guitare classique du tout. Et donc, mon envie, quand j'ai commencé la guitare, c'était tout de suite, évidemment, d'apprendre ce genre de morceau. Et puis, c'est pas un morceau très très compliqué, c'est vrai, pour la guitare. Donc, assez vite, j'ai réussi à le jouer.
Il n'y a pas beaucoup d'accords.
Il n'y a pas beaucoup d'accords, non, il y a plusieurs parties, mais il n'y a pas beaucoup d'accords. Et puis, j'étais très fier de le jouer à mes parents. Et c'est vrai qu'après, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre partie dans ce morceau qui était le solo de guitare. Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire un peu d'autres choses sur la guitare, et notamment ce qui m'a plus tard amené à l'improvisation. Ce qui s'avère que j'avais écouté Made in Japan, qui était un disque de Deep Purple aussi. Et je m'étais aperçu qu'il jouait le même titre, mais que le solo de guitare était différent. Et c'est un premier pas dans la compréhension de l'improvisation qui m'a totalement passionné et qui m'a amené bien plus tard vers le jazz.
Deep Purple vous a conduit au jazz.
Tout doucement, ouais. Et c'est exactement ça. Il y a une histoire qui est passionnante derrière ça, qui est qu'en fait, le studio dans lequel ils devaient enregistrer ce morceau a brûlé. Donc ils ont dû monter un studio de fortune dans l'hôtel dans lequel ils logeaient, à Montreux. Et donc le son qu'on entend, qui est un son incroyable, je trouve, de ce disque, c'est le son d'un studio bricolé au dernier moment entre des chambres et un couloir d'un hôtel de Montreux. Et c'est génial, le son est génial. Ça rappelle des disques de Led Zeppelin ou des choses comme ça, où il y a vraiment quelque chose qu'on a du mal à refaire maintenant, une espèce de profondeur, un truc un peu sale, qui était vraiment typique de l'époque.
Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ce morceau, il vous a un peu révélé à vous-même ?
Bah en tout cas, il m'a fait commencer la guitare, et maintenant je joue de la guitare depuis... plus de 34 ans, donc c'est vrai que ça fait quand même un sacré paquet de temps, donc effectivement oui, il a sans doute révélé une part de moi très importante, oui.
Smoke on the Water, Deep Purple, c'était donc Frédéric, le choix du guitariste de jazz Romain Pilon.
Romain Pilon qui sera en concert vendredi et samedi au Sunset à Paris.